Notre banque a compris
qu'on peut aussi avoir des projets à notre âge.
Des travaux à votre âge ?
Comment ça, à notre âge ?
Mais vous avez vraiment besoin d'aménager le grenier ?
Et nos petits-enfants, ils vont dormir où ?
Ma chérie, ne t'inquiète pas, on est allé voir Eric de la Banque Postale, il nous a dit qu'on pouvait avoir un prêt pour ça. Eh, en parlant de petits-enfants...
Oui, ma chérie, c'est quand tu veux.
À la Banque Postale, nous avons compris qu'avoir des projets n'est pas une question d'âge. Profitez de notre offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux ou projets valables jusqu'au 1er juin 2013. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque
et citoyenne.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry fête ses 70 ans. C'est un anniversaire que Franck Ferrand ne pouvait pas passer sous silence. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les 70 ans de l'éternel enfant sont notamment célébrés comme il se devait par l'éditeur de Saint-Ex, Gallimard, qui pour la circonstance publie plusieurs ouvrages sur le Petit Prince et sa postérité. Et l'éditeur Alban Cerisier est avec nous pour en parler.
Et vous avez aussi convié Jean-Pierre Guénaud à nous rejoindre sur Europe 1.
Oui, l'ami Jean-Pierre Guénaud du Musée des Lettres et des Manuscrits, avec qui nous allons notamment évoquer une exposition sous-titrée « Sauver la planète du Petit Prince ». Autant dire que l'émission d'aujourd'hui est placée sous le signe de l'humanisme.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
New York, avril 1943. Dans les vitrines des libraires apparaît un album publié d'emblée en deux langues, l'anglais évidemment, et le français, langue de l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince, héros d'aquarelle avec sa bouille ronde couronnée de cheveux en soleil et son nœud papillon rouge, parfois recouvert, vous savez, de sa trop grande écharpe, le petit prince vient de faire une entrée naïve, faussement discrète, sur la scène de la littérature mondiale. L'album, qui ne paraîtra en France que 3 ans plus tard, après la libération, et donc après la mort de l'auteur, sera l'œuvre contemporaine la plus traduite de tout le XXe siècle. Après 70 ans, l'ouvrage demeure le classique des classiques de la littérature pour enfants, à moins qu'il ne s'adresse aux adultes à travers les enfants. C'est tout le mystère de ce chef-d'œuvre à la fois limpide et d'une inépuisable épaisseur. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Vous vous rappelez sans doute ces phrases. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé que naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Plus loin, Saint-Ex poursuit. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Bien difficile, pour peu qu'on se soit laissé happer par le conte de Saint-Exupéry, de le lâcher et d'en ressortir. la grâce, la pureté, la profondeur, la finesse, l'humour, la joie, la lumière qui se dégage de cette œuvre si simple en apparence sont difficiles à comparer. Je vais vous faire un aveu aujourd'hui, j'ai fait partie des enfants, peut-être moins rares qu'on ne voudrait le croire, à qui l'on n'avait jamais lu, jamais offert ou simplement fait lire Le Petit Prince, de sorte que je l'ai découvert sur le tard, à 30 ans passés. Eh bien, par un phénomène que je ne parviens pas à m'expliquer très bien, j'ai ressenti à sa lecture une étrange nostalgie, quelque chose de personnel, peuplé de belles émotions, comme si j'avais bel et bien passé ma jeunesse au milieu de cette poésie-là. Ici réside peut-être le plus grand secret de cette œuvre universelle, dans sa capacité à entrer tout de suite en résonance avec ce qui en vous est resté le plus net, le plus souriant, peut-être le plus enfantin. C'est cela, Le Petit Prince agit sur nous tous avec des effets divers, agit comme un révélateur d'innocence.
La symphonie composée par Frédéric Talgorn. À tout de suite sur Europe 1 pour une plongée en enfance.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec vos invités Franck sur Europe 1, Alban Cerisier, éditeur chez Gallimard, spécialiste de Saint-Exupéry. Il a été le coordinateur d'un livre consacré au Petit Prince.
Spécialiste, nous dit une auditrice.
Le spécialiste sur Europe 1.fr. Donc il était une fois Le Petit Prince aux éditions Gallimard. Et puis avec nous Jean-Pierre Guénaud, écrivain, historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres manuscrits de Paris et de Bruxelles.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Jean-Pierre
Bonjour.
Guénaud, on peut dire que dans ce musée des lettres et des manuscrits dont nous parlons souvent à cette antenne, vous possédez un certain nombre de très beaux manuscrits de Saint-Exupéry.
Oui, dont deux acquisitions récentes fabuleuses qui sont deux chapitres manuscrits inédits du Petit Prince. Quand le Petit Prince commence sa tournée des planètes et des grands personnages, en fait, au tout départ, le premier personnage qu'il croisait était un cruciverbiste qui cherchait un mot inénarrable, le mot gargarisme, et qui, à mon avis, le cherche encore.
Six lettres commençant par G.
Oui, après tout. Alors, Alban Cerisier, Gallimard se rattrape, si je puis dire, avec toutes sortes de publications pour ce 70e anniversaire. Vous auriez adoré que Saint-Exupéry puisse publier les tout premiers exemplaires du Petit Prince chez vous.
Ah oui, tout à fait, puisque cette naissance un peu décentrée, d'une certaine façon, de ce livre, avait de quoi, non pas gêner, mais vexer un peu Gaston Gallimard, le fondateur des éditions Gallimard.
Grand ami de Saint-Ex.
Très grand ami de Saint-Ex, du reste, hein, comme son épouse d'ailleurs, Consuelo. Mm-hmm. Et voilà, les circonstances ont fait qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, Saint-Exupéry s'était exilé aux États-Unis et a publié en fait deux livres réellement aux États-Unis avant de les publier en France, qui sont Pilote de guerre et Le Petit Prince.
Voilà. Pilote de guerre pour essayer de rappeler à des Américains qu'il avait un peu vite oublié à quel point la campagne de France avait été très dure.
Exactement.
Et puis donc ce Petit Prince qui va naître dans des circonstances très particulières. En fait.
Oui, alors le témoignage dont nous disposons aujourd'hui, qui sont ceux finalement assez tardifs des éditeurs américains du Petit Prince, Renal et Hitchcock, racontent, disent que c'est à l'initiative des éditeurs, ce projet de livre pour enfants ou pas pour enfants.
C'est
la grande question.
Enfin, c'est officiellement un conte pour enfants, ça, personne ne le
contestera. Oui, ça devait être un conte de Noël, mais Saint-Exupéry avait du retard, les éditeurs aussi, du reste. Hein, et dès le début, c'est d'ailleurs intéressant, les premières critiques américaines parues donc en avril sur le livre témoignent déjà d'une interrogation sur ce point. Est-ce vraiment un livre pour enfants? Et d'ailleurs, l'éditeur en joue, il dit 100% des lecteurs considèrent que c'est un livre pour enfants, mais 100% considèrent que c'est aussi un livre qui n'est pas pour les enfants. Enfin,
c'est l'auteur de Mary Poppins qui va poser officiellement la question.
C'est d'ailleurs pas un véritable hasard, puisque Pamela Traverse est publiée par les mêmes éditeurs que Saint-Exupéry, donc une naissance à la même enseigne. Et elle, dans une magnifique critique. Elle pose effectivement cette question et elle dit que finalement, ce Petit Prince-là et la lecture pour les enfants va les nourrir, mais pour plus tard. Elle les éclaire, dit-elle, d'une lumière indirecte qui, plus tard, portera ses fruits. Donc, ce qui explique d'ailleurs cette idée de transmission qui est présente.
Est-ce qu'on sait depuis quand Saint-Exupéry gardait, comment dire, en gestation ce personnage du Petit Prince ? Est-ce qu'on en a des apparitions prématurées ?
Est-ce qu'il elles sont graphiques.
Elles sont
vraiment graphiques.
Faut pas oublier que c'est aussi du dessin, l'album.
C'est peut-être
d'abord
du dessin, en l'occurrence, dans la jeunesse, puisque effectivement, Saint-Exupéry, à partir du milieu des années 30, commence à dessiner sur ses manuscrits, ses lettres, un peu partout, à vrai dire, ses papiers intimes, un petit personnage qui se forme petit à petit, qui est d'ailleurs déjà un peu la transposition de son âme intérieure, de ses inquiétudes. Il le fait parler. Et il fait part à ceux à qui il adresse ses dessins de son climat intérieur, d'une certaine façon.
Oui,
c'est déjà un petit personnage mélancolique. Mais il n'a pas les traits définitifs du Petit Prince. C'est souvent un personnage sur une colline herbeuse, avec fleurie, avec des petits animaux, et puis qui regarde au loin, un peu inquiet.
Je vais revenir tout à l'heure sur un certain nombre de grands repères biographiques. Oui. Hein, on va reparcourir une partie de la vie de Saint-Exupéry. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment où il écrit Le Petit Prince, il a déjà eu plusieurs graves accidents aérien.
Oui.
Il a su ce que c'était que la solitude, c'est le moins qu'on puisse dire, en vol.
Oui.
Et il est relié au monde, et ça va nous amener à tout l'aspect très humaniste que nous allons développer tout à l'heure avec Jean-Pierre Guénaud. Il est un exilé et il n'aime pas la communauté française exilée aux États-Unis pendant l'occupation, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, parce qu'il est en conflit ouvert avec les gaullistes. Saint-Exupéry n'a jamais, tout en étant profondément anti-naziste, sans aucune sorte d'ambiguïté. D'ailleurs,
c'est
pilote de guerre.
Il
suffit de dire pilote de guerre pour s'en rendre compte.
Il va mourir au combat, d'une façon.
Bien
même
sûr,
si c'est
il va mourir au combat. Et il y a véritablement une très nette méfiance à l'égard de Gaulle, qu'il reproche de vouloir gouverner une France dont la réalité est celle qui se trouve dans les caves, la France oppressée, opprimée, pardon. Et donc il ne va pas rallier ce clan. Évidemment, ça va créer beaucoup de difficultés pour lui dans cette espèce de cocotte minute qui est New York à cette époque-là. Donc il va souffrir ça. Il va être mis en cause par ses compatriotes. Il va devoir s'exprimer auprès du peuple américain par la presse.
Avec qui plus est, en même temps, une vie sentimentale un peu agitée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pour le moins, oui, même si Consuelo le rejoint un petit peu plus tard à New York. Il va venir effectivement. Il est entouré de femmes à New York, de Nada Dragan, Sylvia Hamilton, à qui il confie d'ailleurs le manuscrit du Petit Prince, qui est aujourd'hui conservé à la Morgan Library à New York. Donc il a une vie un peu conjugale, un peu compliquée. Oui.
Nous
il a besoin
donc,
de tendresse.
Je dis ça pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement. Nous faisons un saut de 70 ans en arrière. Nous sommes à New York en 1943, au moment de la naissance de ce Petit Prince qui n'en finit pas de vivre et de nous faire vivre.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry célèbre ses 70 ans et c'est un événement qui vous fait vivement réagir sur la page Facebook et sur Europe1.fr.
Oui, avec beaucoup d'enthousiasme. J'adore l'histoire du Petit Prince, écrit Marie-France. Je l'ai lu à mes enfants quand ils étaient petits et maintenant je le lis à mes petits-enfants. Et j'ai acheté le CD, l'histoire est lue par Pierre Arditi et Benjamin Pascal, un vrai régal. En voiture, ça les tient tranquilles. Pierre Arditi et Benjamin Pascal, certes, chère Marie-France, mais n'oublions pas, évidemment, la voix de Gérard Philippe, comme nous le rappelle Marjorie. J'en connaît par cœur des passages entiers, nous dit Marjorie. Si seulement on savait entendre le message de ce livre, la vie sur Terre serait plus facile, je crois. Eh bien, la voix de Gérard Philippe, la voici. On est là dans le chapitre consacré à la rose.
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le Petit Prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée.
Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée.
que vous êtes belle,
n'est-ce pas ?
Eh oui, énormément d'enfants se sont endormis, ont rêvé, ont peut-être appris à vivre d'une certaine façon à travers la prose particulièrement limpide de Saint-Exupéry et, disons-le, la voix de Gérard Philippe qui très tôt a incarné ce texte.
Oui, véritablement. C'est d'ailleurs, on le voit très très bien dans l'histoire de la diffusion de ce livre, que la parution effectivement de cet enregistrement a été décisive pour la France. Oui, naturellement. Hein.
Oui, parce que le texte est par ailleurs traduit dans toutes les langues.
Ah, c'est à ce jour plus de 200 langues, oui. Ça ne cesse. Alors, il y a beaucoup de dialectes.
On dit que c'est l'ouvrage contemporain le plus traduit du XXe siècle.
Je crois que c'est très exact.
C'est tout à fait
pour l'œuvre littéraire.
C'est-à-dire qu'où qu'on aille sur la planète, on parle du Petit Prince, tout le monde sait à quoi on fait référence.
Exactement.
D'ailleurs, les publicitaires s'en sont emparés allègrement dans bien des pays.
C'est pour ça que c'est toujours très bon de revenir au texte.
Oui, c'est ça, de revenir à la source et à l'origine et de boire, si je puis dire, à cette source. Alors, Alban Cerisier, il faut peut-être, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de lire, parce que je crois que c'est le terme, eu la chance de lire Le Petit Prince, qu'on explique un peu de quoi il est question dans ce conte.
Alors cette histoire, elle est assez simple, c'est la rencontre d'un aviateur qui tombe dans les airs, qui est une image métaphorique de Saint-Exupéry lui-même.
C'est le narrateur, en fait.
C'est le narrateur, tout à fait, et qui, dans le désert, avec son avion en panne, fait la rencontre d'un personnage qui arrive là comme un miracle, une révélation, voilà, comme une grâce. Et un dialogue s'engage entre ces deux personnages autour de ce dessin du mouton dont on a parlé tout à l'heure. Et puis petit à petit, le pilote comprend que ce personnage a quitté sa petite planète, habitée notamment par cette rose qu'il a délaissée. Donc il y a la fuite, il y a le départ qui est très important d'emblée, et découvre que un voyage interplanétaire a déjà eu lieu, assez décevant pour le petit prince. C'est la rencontre des personnages assez vains, ces hommes îlots dont parlait Saint-Exupéry, détachés de l'humanité, de la véritable humanité. Et puis il arrive, donc c'est le roi, le buveur, et il arrive sur la Terre. Où là, il fait une rencontre décisive, qui est celle du renard. Voilà, qui lui apprend la véritable
l'archétype,
le renard qui lui révèle finalement l'authenticité des relations humaines et de ce qui finalement rend, comme le disait votre auditrice, peut rendre la Terre habitable. Ça, je crois qu'il y a un projet de refondation qui est très très important dans ce livre-là et qui est universel et atemporel, précisément.
C'est très beau qu'un conte, simple conte officiellement, enfin apparemment destiné aux enfants, puisse devenir en quelque sorte un socle philosophique.
Véritablement, oui. C'est pas un manuel, c'est vraiment une narration, une fable très très simple qui porte ce message-là et qui le porte finalement vraiment. Enfin, c'est à la fois presque le plus moral des livres de Saint-Exupéry et en même temps le plus proche d'une fiction simple et qui se donne pour elle-même très 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 limpidement, quoi. Et cette recherche de simplicité et de profondeur, elle est évidemment décisive. D'ailleurs, l'aviateur, le narrateur, dit lui-même qu'il entend bien que son livre ne soit pas lu à la légère. C'est dans le texte, ça c'est écrit. Donc Saint-Exupéry, il le dit à son lecteur.
Oui.
C'est vraiment important.
Il y a bien sûr des clés. On a cherché à trouver toutes sortes d'inspirations, d'inspirations littéraires, mais aussi d'inspiration dans la vie de Saint-Exupéry lui-même.
Oui.
On a entendu tout à l'heure Gérard Philippe lire un tout petit extrait du passage sur la rose. La rose, c'est peut-être un peu Consuelo,
c'est la compagne. Oui, c'est Consuelo et c'est aussi toutes les femmes, c'est-à-dire c'est aussi la mère, c'est aussi l'attachement féminin, c'est aussi l'amour de l'amour. Enfin, c'est pas simple, c'est jamais simple. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry a vraiment s'est efforcé, on le voit quand on analyse le manuscrit, s'est efforcé de supprimer, d'atténuer les détails trop biographiques qui figuraient d'abord pour donner cette teinte d'universalité. Mais c'est sûr, il y a d'autres rapprochements, il y a le rire qui évoque une des femmes des compagnies américaines, le rire des étoiles, le grelot des étoiles.
Ouais,
voilà. Et puis il y a aussi les modèles qui lui ont servi pour dessiner le renard, par exemple.
Il y a tous ces petits dessins à l'aquarelle absolument divins qui sont
qui lui a demandé beaucoup de travail.
Oui, c'était moins naturel que l'écriture.
Oui, oui, il y a des témoignages, notamment de sa professeure d'anglais. Il parlait épouvantablement anglais, Saint-Exupéry. Et elle a témoigné de façon très, très gentille de la façon dont Saint-Exupéry se dessinait à Bevina House, à Long Island.
Alors justement, on va revenir un peu sur la vie de Saint-Exupéry à cette époque pour essayer de resituer tout simplement le Petit Prince dans une existence qui d'ailleurs à cette époque tire évidemment à sa fin.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la vie de Saint-Exupéry, mais aussi sur la naissance du Petit Prince.
Oui, vous savez, le crash aérien qui a donné à Saint-Exupéry l'idée au départ de cette panne en plein désert, il lui est arrivé à la toute fin de 1935. C'était en plein désert de Libye, on était à environ 200 km à l'ouest du Caire, et évidemment, on peut trouver dans cet épisode personnel quelque chose de très parlant et qui sans doute a servi d'idée de départ pour le Petit Prince, même s'il y a d'autres épisodes, on va y venir. En janvier 1938, comme si Saint-Exupéry n'avait pas eu sa dose d'émotion forte, le voilà qui entreprend un raid aérien New York Terre de Feu. Vous savez, il y a un côté casse-cou chez cet homme, tellement casse-cou d'ailleurs que ça lui coûtera finalement la vie. Il mène ce raid avec son fidèle, j'aurais dû en parler d'ailleurs de Prévost, mais on en dira un mot tout à l'heure. Et là encore, ça se termine mal, et même très mal. Perte de vitesse au décollage et de nouveau accident. C'est le cinquième accident grave de la vie de Saint-Exupéry et on peut même dire que ces accidents sont d'ailleurs de plus en plus graves. Là, c'est sur le terrain de Guatemala. Et cette fois, Saint-Exupéry est grièvement blessé. Il souffre de multiples fractures et de commotions tout à fait sérieuses. C'est donc un homme blessé physiquement mais aussi sans doute au moral qui reçoit en 1939 le Grand Prix du roman de l'Académie française pour un ouvrage qui au demeurant n'est pas, en tout cas pas vraiment un roman, c'est Terre des Hommes, sur lequel nous allons revenir plus longuement dans un instant avec Jean-Pierre Guénaud. L'éthique de Saint-Exupéry, on peut le dire à cette époque, elle cristallise, elle s'épure et elle gagne sans doute en force. Et en même temps, l'époque est aux angoisses. Retour d'un voyage dans l'Allemagne nazie, Saint-Exupéry est littéralement affolé, il est au sans-coups. On peut dire que lui, il l'aura vu venir cette guerre et qu'il l'aura même annoncée. Naturellement, à l'automne 1939, il décline l'offre d'un autre de nos très grands auteurs de l'époque, Jean Giraudoux, vous savez, qui est commissaire à l'information, qui va s'occuper de toute la communication gouvernementale pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre et qui demande à Saint-Exupéry de le rejoindre. Et Saint-Ex refuse. D'ailleurs, il veut agir, il veut être au cœur de l'action. Il refuse notamment, en tant que pilote, de rester dans le Midi comme un simple instructeur. Il veut aller au feu, il veut aller au combat. Et évidemment, quand vous êtes un auteur en vue, c'est plus facile. Grâce à ses grandes relations, il obtient d'être affecté à l'unité active, la 233, c'est l'escadron de grande reconnaissance, ce qui veut dire qu'il va être, si j'ose cette expression un peu hardie, aux premières loges pour assister à la terrible campagne de France à partir de l'offensive allemande du 10 mai 1940. Ce que Saint-Exupéry découvre le révulse et l'abat tout à la fois. Il est découragé par le désastre français et par ce courage de tant et tant de soldats qui va s'épuiser en pure perte. Saint-Exupéry tient son rôle avec honneur dans cette campagne et notamment au-dessus d'Arras. C'est la célèbre nuit du 23 mai 1940 qui, dans sa vie et dans la perception qu'il peut sans doute avoir des choses, va marquer une rupture. Ça aussi, nous y venons dans un instant. Après la défaite, après l'effondrement de la France, donc en juin 40, comme il se trouve que Saint-Exupéry a été démobilisé avec son unité en Afrique du Nord, il en profite, il va partir pour les États-Unis. Et nous l'avons dit il y a un instant avec Alban Cerisier, ce qu'il découvre à New York ne lui plaît pas du tout. Ce petit groupe des Français réfugiés, ardemment gaullistes de loin, si je puis dire, lui déplaît d'emblée. Et surtout, ce qui choque Saint-Exupéry, c'est l'opinion américaine. C'est ce mépris que manifestent les Américains pour un peuple français qui est accusé de l'autre côté de l'Atlantique de ne s'être finalement pas vraiment battu. Or, il est bien placé, lui, pour savoir que les Français non seulement se sont battus, mais que c'est une des guerres les plus dures, les plus sauvages qui auront été menées à l'époque moderne. Et c'est pour réagir contre tout ça que Saint-Exupéry va donc publier en février 42 son célèbre Pilote de guerre, qui est aussitôt un best-seller, et qui va rendre sans doute un service tout à fait efficace à la cause des Français et des Alliés en Amérique. Saint-Exupéry habite donc à New York, nous l'avons dit, au 21e étage d'un gratte-ciel, pour fuir toutes les laideurs que cette vie d'exilé lui impose, il va écrire Le Petit Prince. Vous l'avez compris, c'est dans ces circonstances et c'est à cette altitude qu'est né le poème, si je puis dire, en tout cas le conte qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis vers la fin de la guerre, usant plus que jamais de son prestige d'écrivain, qui maintenant est devenu tout à fait important, Saint-Exupéry parvient de nouveau à se faire affecter sur une base aérienne, une base active, en l'occurrence la base aérienne américaine de Méditerranée où il va se retrouver. On est après de Bastia, hein, à bord, sur le terrain de Borgo. On est là à la toute fin de la guerre. Il ne faut pas oublier que le débarquement en Normandie a eu lieu. On est en juillet 44. Antoine vole sur le fameux Lightning P-38. Vous savez, ces avions à double fuselage, hein, un avion super puissant et dont on dit qu'il était vraiment réservé aux pilotes très expérimentés car il fallait le tenir. Hein. C'est un navire, j'allais dire. C'est un vaisseau aérien qui dépasse allègrement les 700 km/h en vol. Hein. Théoriquement, on réserve donc cet avion à des pilotes très jeunes et très entraînés. Or, Saint-Exupéry a 44 ans, hein, tout de même, à l'époque. Je parle en connaissance de cause. Ses réflexes sont sans doute un peu émoussés par rapport à ce qu'ils ont pu être. Le 29 juillet, le commandant décide de mettre Saint-Exupéry au courant du futur débarquement qui va avoir lieu en Provence. Vous savez que le débarquement aura lieu le 15 août suivant. Et évidemment, à partir du moment où il est au courant, c'est une interdiction de voler, puisque vous risquez à tout moment d'être pris par l'ennemi et de devoir parler. On doit mettre Saint-Exupéry au courant dès le 1er août. Or, le 31 juillet, à 8h30, le voilà qui décolle, et qui décolle malheureusement pour la dernière fois.
Uranus sur Europe 1, extrait des planètes de Gustav Holst, Franck.
Alors cet accident, si je puis dire, va être le sixième de Saint-Exupéry et il n'y en aura pas de septième. À 13h30, on s'inquiète sur la base de ne pas le voir revenir. Son avion aurait dû se poser depuis plus d'une demi-heure et puis le temps passe. On compte vraiment les minutes dans ces cas-là, vous savez. Puis on sait qu'évidemment, il y a une autonomie en vol qui n'est pas énorme et on a calculé qu'à 14h30, il n'y aurait plus de réserve d'essence. Ce qui veut dire qu'à 15h, 15h30, 16h, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. Et le lendemain, 1er août donc, un pilote allemand, l'aspirant Robert Eichele, va déclarer avoir abattu un appareil qui ressemble à celui de Saint-Exupéry comme un frère jumeau. Il n'en fallait pas plus, évidemment, pour qu'on admette qu'il ait été abattu en vol. Mais un certain nombre de fidèles et d'esprits un peu plus exigeants, peut-être, ne se satisfont pas de cette simple explication. Ils refusent de croire à la disparition du grand homme. Et c'est 56 ans plus tard seulement, vous savez, en mai 2000, nous en avons parlé déjà à ce micro, c'est en mai 2000 qu'un plongeur français, Luc Van Rel, va découvrir l'épave de l'appareil de Saint-Exupéry au large de Marseille, à l'endroit même où avait été repêchée une gourmette au nom de l'aviateur. Ça, c'était en septembre 1998. Désormais, il semble possible d'affirmer que Saint-Exupéry a bel et bien été abattu en plein vol le 31 juillet 1944. Il a disparu comme il l'avait lui-même écrit dans son chef-d'œuvre Citadelle. Et on va citer beaucoup Citadelle dans la deuxième partie de cette émission. « Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seulement dont tu peux vivre. »
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie d'Alban Cerisier et de Jean-Pierre Guénaud pour fêter les 70 ans du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Alors je parlais tout à l'heure dans ce court récit du crash aérien de décembre 35. Il y a donc un autre événement très important qui va être un moment important de la prise de conscience de Saint-Exupéry. C'est cette fameuse nuit du 23 mai 1940, Jean-Pierre Guénaud.
Oui, il y a trois naissances chez Saint-Exupéry. Sa naissance, celle de l'état civil, quand sa mère Marie lui donne le jour, le 29 juin 1900. À Cap Juby en 1927, lorsqu'il découvre la magie du désert. Et puis, il y a cette fameuse mission suicide du 23 mai 1940. Il est en vol d'observation, escorté par des chasseurs. Et il va subir l'enfer.
En pleine campagne de France, hein, évidemment.
En pleine campagne de France, il va subir l'enfer au-dessus d'Arras. La plupart des chasseurs d'escorte ne vont pas revenir. La plupart des bombardiers d'observation qui sont là, qui ne sont pas armés seulement de caméras, d'appareils photo, vont revenir, pour ceux qui vont revenir transpercés comme des passoires. Et là, c'est un peu l'équivalent de la nuit de Pascal, hein, joie, joie, pleur de joie.
Oui, c'est Saint-Exupéry, c'est une révélation, on peut dire.
C'est une révélation. Cette communauté des hommes, dit-il, dans Pilotes de guerre, Je ne l'habitais plus en architecte, j'y logeais en sacristain ou en chaisière, donc en parasite, donc en vaincu. Le tir a brisé une écorce. Je n'étais que le gérant grincheux, mais l'homme est apparu, il s'est installé à ma place, tout simplement. C'est la révélation. Et cette brisure, le tir a brisé une écorce, va déclencher deux choses. D'une part, Pilote de guerre, qui n'est pas seulement le récit d'un pilote de guerre, mais qui, en fin de compte, reprend tout le passé, toute l'aventure de Saint-Exupéry, et puis Le Petit Prince. Les deux sont très liés. C'est dans Pilote de guerre que Saint-Exupéry raconte l'agonie de son petit frère François.
Qui avait eu lieu bien avant. Hein.
Quand Saint-Exupéry avait 17 ans, son petit frère à 14 ans est mort à la suite d'un refroidissement et lui a transmis quelque chose sur son lit de mort. Et c'est le fameux passage qu'on va retrouver dans Le Petit Prince sur la vieille écorce. Son frère lui dit « je ne vais pas pouvoir emporter mon corps, il restera là, il restera sur terre comme une vieille écorce. » Ce n'est pas triste les vieilles écorces. On va retrouver ce message qu'a transmis François de Saint-Exupéry à Antoine de Saint-Exupéry textuellement dans Le Petit Prince. Et bien sûr, une des sources d'inspiration du Petit Prince, c'est le petit frère, c'est son petit frère François. Et ce qui est très émouvant, Alban Cerisier disait tout à l'heure que Le Petit Prince est d'abord graphique avant d'être une œuvre littéraire. C'est que Saint-Ex, au fil de sa vie, à partir du milieu des années 30, ne cesse d'évoluer entre deux physionomies alternatives pour Le Petit Prince. Et il fera ça jusqu'à la fin de sa vie, quasiment. Tantôt, Le Petit Prince est rondouillard, avec une tête bien ronde. Là, c'est un peu Saint-Ex adulte, c'est son autoportrait. Tantôt, il a le physique du Petit Prince que nous a laissé la postérité. Et là, on est soit proche de Saint-Ex
tout
enfant,
menu, en fait, hein,
tout menu. Soit proche de Saint-Ex enfant, soit surtout proche de son petit frère François, qui d'une certaine façon est aussi l'un de ses petits princes.
Une clé supplémentaire pour aborder cette œuvre, finalement.
Assurément, et c'est peut-être finalement le seul prolongement biographique qui compte. Enfin, il y a dans cet extrait que cite Jean-Pierre, Saint-Ex écrit « Quand le corps se défait, l'essentiel se montre ». Ouais. On est déjà totalement dans l'histoire du Petit Prince et dans son sens.
Nos auditeurs, et en l'occurrence nos auditrices, réagissent nombreuses à cette émission. « Mon mari n'avait pas non plus lu Le Petit Prince », me dit Sonia. « Je le lui ai offert lorsqu'il est devenu papa et il n'est pas rare, au moment du coucher, de le voir en lire un chapitre ou deux à notre grand. » Nelly nous dit « Le Petit Prince est le premier livre que mon fils a pris seul dans la bibliothèque et qu'il a lu seul, il avait 8 ans. J'ai découvert Le Petit Prince à 6 ans », nous dit Florence, « lu par Jean-Louis Trintignant. Et puis dès que j'ai su lire, je l'ai dévoré. On peut dire que ce livre ne m'a jamais quitté. À chaque moment de ma vie, Le Petit Prince m'aura accompagné, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour me soutenir. Ce livre est un peu une thérapie pour moi. » Alors on se dit, mais vous parliez de révélation, Jean-Pierre. Hein, on est dans... Et puis alors quand même, une note un peu discordante, Patricia nous dit, écoutez, comme tout le monde parle du Petit Prince, j'ai voulu le lire, je n'ai rien compris, j'ai dû passer complètement à côté. Expliquez-moi la raison de son succès. Il faut peut-être aussi un état d'esprit particulier pour
oui,
le lire.
On peut conseiller à Patricia de lire les autres œuvres de Saint-Exupéry, et puis surtout de relire Hans Christian Andersen. Il y a un très grand cousinage entre Andersen et Saint-Exupéry, par exemple entre La Petite Sirène et Le Petit Prince. Hein. Dans les deux cas, on a affaire à des histoires dont on ne sait jamais si elles ne sont pas des contes pour enfants ou pour adultes, ce ne sont pas des contes. Chez Andersen, contrairement à ce qui se passe chez Grimm ou chez Perrault, tout finit toujours très mal. Ce sont les histoires de la vraie vie, ce sont de vraies histoires. Ce sont des histoires qui ne nous endorment pas, qui ne nous anesthésient pas comme les contes de Perrault ou de Grimm, mais qui nous aident à grandir. Et d'ailleurs Marie, la maman d'Antoine, quand il était petit, lui lisait les contes d'Andersen et en particulier La Petite Sirène.
Et on voit à quelle source il a lui-même puisé, évidemment.
Saint-Exupéry parlait d'un livre à boire, qu'il était il cherchait le livre à boire.
Ça fait plusieurs fois qu'on utilise la métaphore. Oui. Hein, il y a vraiment cet aspect très, très net. Pourquoi est-ce que 70 ans après, Le Petit Prince est encore aussi présent? On a l'impression qu'il a vraiment, selon l'expression, il n'a pas pris une ride, ce Petit Prince, en 70 ans.
Je pense que d'une part, effectivement, c'est par la qualité même du récit, ce côté extrêmement simple et dépouillé que Saint-Exupéry lui a donné. C'est pas un écrit daté, c'est un écrit qui s'inscrit dans un prolongement et une sorte d'éternité littéraire, d'une certaine façon. Et puis, je crois que c'est essentiellement lié à son propos. C'est un livre à transmettre, c'est un livre, comme je le disais tout à l'heure, de refondation. Et dans la nuit, dans la tristesse, dans la douleur, se découvre le vrai sens de l'existence. Et c'est quelque chose qui, effectivement, pour quelques personnes que ce soit, à quelques moments de son existence, c'est un livre où on aime à se ressourcer.
Il était une fois le Petit Prince, et donc évidemment aux éditions Gallimard, et puis La belle histoire du Petit Prince, ça c'est une sorte de...
Un album collectif qu'on a composé avec Delphine Lacroix, Virgile Tanaz et Olivier Audaert, où effectivement on revient sur cette genèse complexe quand même de ce livre, et puis où, avec de nombreux documents inédits, dont le manuscrit dont parlait Jean-Pierre, des dessins nouveaux qui n'étaient pas connus jusqu'alors, et puis des propositions de lecture aussi, parce que je pense que c'est bien aussi de s'interroger sur ce livre, sur sa façon dont il est composé, sur ce qu'il porte comme message, comme beauté.
Alors, dans un instant, avec Jean-Pierre Guénaud, nous revenons sur un certain nombre de propositions de lecture, mais de lecture de la vie, précisément. Merci beaucoup, Alban Cerisier.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture du Petit Prince, une symphonie composée par Frédéric Talgorn.
Alors on évoque évidemment l'universalité du Petit Prince en particulier, mais d'une façon plus générale aussi tout simplement de l'œuvre de Saint-Exupéry. Et c'est une œuvre qui vous a paru très, très utile pour notre époque, Jean-Pierre Guénaud, et notamment pour le rapport que nous pouvons avoir à la Terre et à l'environnement.
Elle est écologiste avant la lettre. Du fond des années 30 et 40, Saint-Exupéry nous décrit les poisons du 21e siècle et nous livre les antidotes qui nous permettront de combattre ces poisons. L'écologie a été introduite en France, elle n'avait pas ce nom-là, dans les années 1870, par les géographes de l'école des annales de géographie. C'était très large. C'est l'art, la science qui porte sur le mode de relation que l'homme porte à son environnement, la science des conditions d'existence. Mais pourquoi limiter cet environnement à sa dimension naturelle? C'est la question que posaient déjà les écologistes de la première heure, c'est la question que repose, à travers son œuvre, Antoine de Saint-Exupéry. Chez lui, il n'y a pas seulement une écologie végétale qui se résumerait à l'appel de la forêt ou du brin d'herbe. Elle y est aussi. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus...
Une écologie au sens propre, c'est-à-dire un rapport, une façon de vivre ensemble.
Oui, ce qui est très important, c'est le mode de relation que l'homme entretient avec l'environnement artificiel.
Pourquoi nous haïr, demande-t-il dans Terre des Hommes, nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire.
Eh oui, alors il y a chez Saint-Exupéry, ça ne s'appelle pas comme ça, une écologie des rapports sociaux. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. C'est une phrase que beaucoup de gens devraient méditer quand ils ont peur de la différence chez les autres.
Si je diffère, loin de te léser, je t'augmente.
Je t'augmente. C'est magnifique. Il y a chez lui ce qui est le plus urgent sur le plan écologique, c'est-à-dire une écologie de la ville. Ça s'appelle l'urbanisme. Il y a chez lui une sorte d'écologie des rapports avec l'argent. On en aurait bien besoin. Il y a cette distinction incessante que fera De Gaulle. Il y a eu un rendez-vous manqué entre De Gaulle et Saint-Exupéry. De Gaulle, dans un discours en 1941, dit très bien que l'enjeu du troisième millénaire, de l'après-guerre, ce sera d'arriver à faire que les forces de l'esprit l'emportent sur les forces de la matière. Eh bien, on peut craindre, on peut avoir peur du contraire, et Saint-Exupéry exprime cette peur du contraire. On a en
tête... Il est dur avec les marchands, notamment.
Il est dur avec les marchands. Il est dur avec les marchands. Et puis, c'est merveilleux parce qu'en cette période de désenchantement, Saint-Exupéry nous aide à espérer, nous aide à grandir. « Je hais, dit-il, cette époque où l'homme devient sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. » Et puis alors les marchands en prennent pour leur grade. Il dit à un moment donné, il faut rendre aux hommes une signification spirituelle, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre uniquement de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Oui.
Alors n'en déplaise
aux amateurs du sudoku, il faut autre chose. Et il conclut en disant on ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est merveilleux. Et par rapport à ces préceptes, on a le sentiment du fait qu'aujourd'hui, en ce début de troisième millénaire, il arrive que l'écologie paraissent un petit peu myopes, astigmates et presbytes. C'est un petit peu dommage. Et je crois que les écologistes qui ont de très belles idées en tête devraient relire Antoine de Saint-Exupéry. Ça donnerait à leur dimension une grande ampleur. Ce qui a porté un coup de jarnac à l'écologie, c'est mai 68. Parce qu'on a véhiculé une vision rousseauiste de la nature, donnant à croire que tout ce qui est naturel serait forcément bon et bénéfique.
Connotation positive, tous azimuts. Hein.
Alors il faut rappeler que chez Saint-Exupéry, le petit prince passe une partie de son temps, quand il est encore sur sa planète, à ramener les volcans et à désherber les bébés baobabs. Ce qui veut dire
désherber, il faut bien insister.
Et puis il faudra...
La nature, il faut l'entretenir, il faut la... de temps en temps, il ne faut pas la laisser...
Et puis il va falloir qu'il mette sa rose sous globe et qu'il mette une muselière au mouton pour que le mouton ne vienne pas dévorer la rose. Donc la nature peut être terrible. Je n'ai pas inventé ni la manie de phalloïde, ni la ciguë. Donc donner une vision purement bénéfique de la nature, c'est un peu absurde.
C'est intéressant ce que vous nous dites. Demain, nous avons une émission consacrée aux arbres, figurez-vous. Amoureux des arbres avec Alain Corbin. Il y aura aussi Jean-Claude Carrière et Georges Fitterman. On va parler de ce que représentent les arbres et de ce qu'ils ont été à travers l'histoire. Dans votre ouvrage qui s'appelle « La terre en héritage », qui est publié aux éditions Jacob Duvernay, vous citez énormément de passages de citadelles, en vérité, et de terres des hommes, plus que du Petit Prince d'ailleurs. Même si le sous-titre est « Sauver la planète du Petit Prince ».
Oui, l'œuvre de Saint-Exupéry forme vraiment un tout, avec une concentration dans Le Petit Prince, peut-être dans Pilote de guerre, mais Citadelle, c'est son testament spirituel. C'est un livre qu'il n'a pas eu le temps d'achever, il disait qu'il lui faudrait
une
encore...
Une sorte de recueil plutôt.
Voilà.
Que,
hein. Et j'essaye d'inciter nos amis de Gallimard à envisager une publication raisonnée de Citadelle, comme on a été obligé de le faire avec les pensées de Pascal. Ouais. C'est le même problème. On a ses pensées un petit peu dans le désordre, de façon touffue. Il faudrait aider le lecteur à pénétrer Citadelle, c'est ce que j'ai essayé de faire de ce livre, dans ce livre et dans l'exposition qui va aller peupler l'Université de la Terre à l'UNESCO dans quelques jours, le 27 avril, avec un thème magnifique, le meilleur est à venir. Hein, en cette période
le meilleur est à venir.
Le meilleur est à venir.
Ça fait plaisir à entendre. Vous êtes à contre, j'ai envie de dire, vous êtes exactement à contre-courant. Cette exposition, elle n'est pas définitivement à l'UNESCO. Hein. Là, elle va avoir lieu à l'UNESCO. Quel jour avez-vous dit
C'est le 27 avril.
27 avril.
À l'UNESCO à Paris.
Et puis ensuite, elle va se promener un peu.
Elle va beaucoup se promener. Elle sera à Genève au mois de mai et elle continuera sa route. Elle est actuellement au Brésil. Elle partira aux États-Unis. Et vraiment, je pense qu'elle est une leçon d'espoir puisque elle définit cette. Quand Saint-Ex nous dit, par exemple, dans ses carnets, « Oh oui, vous m'offrez un plus bel immeuble, une meilleure voiture, un air plus pur. » Oui, mais quel homme pour les habiter ? On voit bien qu'on est là, au centre, de quelque chose de vital.
On revient finalement très souvent avec Saint-Exupéry, et pas seulement dans les pages lumineuses du Petit Prince, à une vision certes très mûre, très élaborée, mais qui reste une vision d'enfance du monde, en quelque sorte. Il y a cette « Je n'ai jamais dit aux grandes personnes que je n'étais pas de leur milieu », écrit-il dans Terre des Hommes. « Je leur ai caché que j'avais toujours 5 ou 6 ans au fond du cœur, Alban Cerisier. »
C'est ce que dit précisément l'aviateur dans Le Petit Prince. Donc c'est cette enfance continuée, enfance préservée, c'est aussi le petit enfant croisé dans le train, ce Mozart qu'on assassine et qui est présent dans Terre des Hommes, qui finit d'ailleurs, qui clôt Terre des Hommes.
Et la plus belle démarche de Saint-Exupéry, c'est sans doute de nous réapprendre, certes nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, mais il nous incite à voir chaque matin comme s'il s'agissait à chaque fois du tout premier matin du monde. Ça c'est quelque chose d'émerveillant. C'est cette faculté d'émerveillement permanent qui va être celle
pas
de cet homme.
Pas d'habitude du regard et encore moins de la
pas
pensée.
Pas d'habitude,
en fait.
Celle de cet homme jusque dans ses engagements. Parce que quand il reprend du métier comme pilote de guerre, il faut rajouter qu'il a dépassé de 10 ans la limite d'âge des pilotes de chasse. L'armée française ne veut plus de lui. Et il ne devra qu'à ses relations au sommet avec Roosevelt le fait de pouvoir voler à nouveau sous uniforme américain. Donc lui aussi est resté à cet égard émerveillé jusqu'au dernier moment et il y a laissé sa vie.
Merci beaucoup à tous les deux. Je suis prof de français à Saint-Pétersbourg, nous dit Fabienne. Et mes élèves qui ont 4 ans de français ont au programme l'étude du Petit Prince. C'est la première fois que j'enseigne le français parce que je finis une année d'échange avec une collègue américaine. Nous avons échangé nos vies pendant une année. Et c'est une opportunité incroyable de redécouvrir le français et la littérature. Le Petit Prince engage de réelles discussions en classe. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler du Petit Prince et d'une façon plus générale de Saint-Exupéry. Je rappelle aussi le titre d'un autre album que vous publiez publié chez Jacob Duvernay, Jean-Pierre Guénaud, La mémoire du petit prince, Antoine de Saint-Exupéry, journal d'une vie, abondante et foisonnante et passionnante bibliographie sur ce thème, sur ce personnage et bien entendu sur cet auteur qui reste encore à découvrir.